Ce balado est seulement fourni à titre d'information générale. Il n'est pas un substitut pour une recommandation, diagnostic ou traitement de la part d'un professionnel de la santé. Le contenu médical présenté et l'information fournie représentent seulement l'opinion du conférencier invité.
Lung and Learn. Sujet d'intérêt en santé respiratoire.
Bonjour et bienvenue à cette édition de Lung and Learn. Je suis votre hôte, Dr. Yves Croisetière. À chaque jour, je parle aux pneumologues des dernières publications scientifiques et leur impact sur leur pratique clinique. Aujourd'hui, je suis ici avec le Dr. Ronald Dandurand, pneumologue à l'hôpital du Lakeshore à Montréal. Le Dr. Dandurand est ici pour nous parler de l'oscillométrie. Merci d'être avec nous, Dr. Dandurand.
Je vous remercie pour avoir demandé une entrevue avec moi selon un sujet dont je suis passionné.
Parfait. Commençons par en apprendre un peu plus sur vous et comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'oscillométrie.
Ben, ça, c'est une bonne question avec une réponse qui est carrément trop long. Mais en tout cas, pour soyez bref, si c'est possible, c'est tout grâce à mes expériences comme fellow à la Beau Meekins Christie à l'Université McGill. Et c'était là-bas que j'avais le moyen de soyez formé dans la physiologie avancée ainsi que les autres technologies en biochimie et cellulaire et moléculaire. Et donc, à l'époque, on avait plusieurs personnes qui travaillaient dans le domaine de l'oscillométrie. Et au fil des ans, je me suis parti en pratique clinique à plein temps, mais ces autres personnes ont toujours travaillé dans le même domaine de l'oscillométrie. Et c'était seulement après 25 ans qu'on a rencontré pour savoir que carrément on a des appareils maintenant sur le marché disponibles. J'en ai acheté une et pour déployer dans ma pratique à partir de 2015.
Wow, excellent! Vous étiez à l'avant-garde!
Les autres gens qui ont travaillé sont repartis dans les autres centres mondiaux pour localement développer des oscillomètres, y compris au Japon.
Ah!
On avait à l'époque un certain Peter Macklem qui est reconnu pour ses expertises dans la physiologie des voies aériennes petites. Et Peter séjournait souvent au nord de l'Italie avec le groupe de Milan.
Très bien.
Et donc, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres gens qui travaillent dans le domaine, j'ai rencontré une Raphaël Delica de l'Institut Polytechnique de Milan. Il m'a embrassé en disant que nous sommes des frères, car Peter Macklem était un mentor pour tous nous deux, même si on ne le connaissait pas à l'époque.
Ah!
Après ça, on vient de parler 3 oscillomètres sur le marché. Il reste 2 autres.
Ah, eh bien, quels sont les autres joueurs importants?
Je suis devenu ami avec Hans-Jürgen Smith, qui travaillait en allemand Est pendant les années 70 et 80. Et là, ils ont développé le IOS, l'oscillomètre qui est sur le marché avec la compagnie Jaeger. Nous sommes devenus amis. Si proche qu'il est venu chez moi pour avoir un barbecue et on se nageait dans la piscine ensemble.
OK.
Et le 5e oscillomètre, ça appartient au groupe qui vient de... qui sont situés à Rome, le COSMED. La machine s'appelle le I2M. Et c'était une technologie qui était développée originellement par Belant de Rosier, une Angloise qui était le premier fellow d'une de mes meilleures amies, Zoltan Antosh, avec lequel je travaille dans le domaine de oscillométrie avancée. Ça veut dire non pas le spectre dont on parle aujourd'hui, mais l'intra-breath qui serait l'oscillométrie de l'avenir. Donc, et voilà, on a 5 appareils sur le marché. J'ai 5 amis avec lesquels je travaille dans le domaine.
Wow! Avec toutes ces relations importantes, sur quoi travaillez-vous maintenant?
Le truc spécial avec ça, c'est que ça m'a permis, quand j'ai constaté qu'on avait des problèmes avec les résultats, qu'ils ne sont pas d'accord entre les machines, j'étais capable de réunir autour d'une table les représentants de tous les 5 manufacturiers. Et on travaille avec nos réunions de 2 fois par an, pour constater c'est quoi juste le problème
Intéressant.
Et on vient de publier un papier qui va définir les différences entre les cinq appareils. Et ces compagnies sont carrément d'accord pour continuer à travailler ensemble pour harmoniser les données récoltées avec chaque appareil.
Ah!
C'est semblable à l'effort qui a été fait dans le labo de Crapo aux États-Unis, où il y avait plusieurs waveforms pour assurer un résultat standard entre les spiromètres. On a des modèles mécaniques ici à Montréal.
Et tout cela se passe à Montréal, vraiment?
On est le seul centre mondialement qui a tous les cinq oscillomètres sous un toit.
Wow! Fantastique!
On les évaluait avec nos modèles standards et c'est comme ça que nous étions capables de constater c'est quoi au juste les différences entre les machines.
Mm-hmm.
Et la science, d'ici 2 ans, toutes les compagnies qui travaillent maintenant pour harmoniser leurs appareils, ils vont retourner à Montréal pour soyez retestés avec nos modèles.
Wow, c'est toute une histoire. Et cela augure bien pour le futur de l'oscillométrie. Pouvez-vous définir ce qu'est l'oscillométrie pour nous?
Ben, heureusement, ça c'est beaucoup plus bref que l'histoire précédente. L'oscillométrie est une méthode de mesure de la fonction pulmonaire en moyenne de l'énergie acoustique appliquée à la bouche. Point final.
OK, cela semble suffisamment simple. Des fréquences vibratoires comme des sons. Et depuis combien de temps l'oscillométrie a été utilisée en médecine respiratoire?
Vous seriez bouleversé de constater que c'est depuis 68 ans déjà.
Oh!
Et il faut qu'on constate aussi que c'est depuis 72 ans que la spirométrie forcée est devenue un de nos outils quotidiens.
Mm.
L'oscillométrie a été pratiquée pour la première fois chez un chien en 1951.
Oh.
2 ans plus tard, en 1953, on a étudié 7 humaines. Et en 1966, l'article classique décrivant l'oscillométrie a été publié dans le journal de Applied Physiology.
Wow! Super intéressant. L'oscillométrie existe donc depuis très longtemps. Comment l'oscillométrie diffère-t-elle de la spirométrie qui, elle, est mieux connue des cliniciens?
L'oscillométrie diffère de la spirométrie forcée à plusieurs égards. Premièrement, elle est plus largement déployable et nécessite un effort minimal du patient. Par exemple, elle peut être utilisée chez les nouveau-nés.
Ah!
Les personnes âgées,
okay,
qui sont athlétées, les neuromusculaires, les patients avec trachéostomie ou même les patients intubés aux soins intensifs.
Okay.
Et en plus, on peut déployer l'oscillométrie chez les patients qui ont des contre-indications à la spirométrie forcée, par exemple ceux qui ont une embolie pulmonaire massive récente ou une chirurgie de cataracte ou même les patients qui ont subi des crises cardiaques.
Je vous vois.
Deuxièmement, elle est plus sensible à la détection des maladies pulmonaires périphériques que la spirométrie forcée.
Vraiment excellent.
Enfin, et contrairement à la spirométrie forcée, elle ne modifie pas la mécanique du système respiratoire et a donc une meilleure réflexion de l'état réel de la santé pulmonaire du patient.
En résumé, si je comprends bien, l'oscillométrie est plus facile pour les patients, elle est plus sécuritaire et donne une meilleure lecture des petits changements au niveau de la physiologie des poumons. Dites-moi, en tant qu'expert en oscillométrie, comment avez-vous intégré cette technique d'évaluation dans votre pratique?
Mais je l'utilise à la fois en parallèle et à la fois comme complément à la spirométrie forcée. Pour la plupart, comme je pratique selon les directrices internationales. Cependant, et plus type de patients mentionnés précédemment, où la spirométrie forcée n'est pas une option, j'ai aussi un certain nombre de patients qui aient subi la spirométrie refusent maintenant d'effectuer la spirométrie forcée.
Vraiment, c'est un peu comique.
J'ai même inventé le terme rebellion oscillométrique ou oscillometry rebellion en anglais pour décrire ce phénomène.
Très intéressant. Je suis certain que vos collègues apprécieront cet avertissement s'ils décidaient d'adopter l'oscillométrie dans leur pratique. Avez-vous identifié des groupes de patients pour qui l'oscillométrie serait indiquée versus la spirométrie?
Ça, c'est une bonne question. Selon les données publiées actuelles, l'oscillométrie convient le mieux au diagnostic et la prise en charge de l'asthme et de l'embarque.
Je vois.
Il y a une nouvelle littérature qui soutient l'idée que ceux qui ont principalement la maladie des voies aériennes périphériques sont mieux traités avec les médicaments par inhalation ultra-fine. Ça veut dire les médicaments qui ont un diamètre moins que 2,5 micromètres. Contrairement à la spirométrie forcée, la spirométrie est capable d'identifier ceux qui ont principalement une pathologie chez les voies aériennes petites.
Ah, OK. Ce n'est pas juste pour les maladies pulmonaires obstructives?
Il existe une littérature en évolution qui suggère que l'oscillométrie pourrait avoir un rôle dans la gestion de la maladie pulmonaire interstitielle.
Wow! C'est vraiment fantastique, Dr. Dandurand. Il est clair que l'oscillométrie peut jouer un grand rôle dans le diagnostic et le suivi de plusieurs maladies pulmonaires. D'après vous, est-ce que l'oscillométrie peut aussi identifier ces conditions à un stade plus précoce de la maladie?
En effet, oui.
Ah bon?
L'oscillométrie détecte les maladies pulmonaires à un stade plus précoce que la spirométrie forcée.
Dites-moi, Dr. Dandurand, avez-vous des exemples intéressants à nous partager?
Bien que de nombreuses publications aient pu se faire, ma préférée est celle du groupe de l'hôpital Bellevue à New York. Ils ont examiné un groupe des premières intervenantes au World Trade Center.
OK.
Toutes ces intervenantes étaient symptomatiques, mais ils avaient une spirométrie forcée normale. L'oscillométrie était abnormale chez ces patients et elle a normalisé avec le traitement qu'ils ont reçu ainsi que les symptômes sont résolus. Pendant ce temps, la spirométrie forcée demeurait normale et inchangée.
Wow! Très intéressant! Il existe peut-être beaucoup de patients avec divers symptômes respiratoires ayant eu un test de spirométrie normal et qui se font dire qu'il n'y a rien d'anormal avec eux?
Tout à fait.
On devrait vraiment apporter une attention toute spéciale à cet outil d'investigation unique dans la communauté respiratoire?
Ça, c'est une bonne question. Malheureusement et tristement, le niveau de reconnaissance demeure très, très faible. Seuls les cliniciens aient une formation en physiologie avancée ou ceux qui participent directement à la recherche sont susceptibles d'utiliser l'oscillométrie en raison de son absence dans les lignes directrices.
OK, OK.
Cependant, cela va probablement changer bientôt.
Parfait.
Je travaille avec un certain nombre d'experts en oscillométrie au niveau international et nous faisons des formations pour les membres de GINA et de Gold sur les avantages de l'oscillométrie, et on fait ça depuis 3 ans.
Parfait. C'est très impressionnant. En attendant, que suggérez-vous à ceux qui voudraient en apprendre plus sur l'oscillométrie?
Là, je suggère fortement de maîtriser vos craintes de l'oscillométrie, parce que vous ne comprenez pas la technologie.
Très bien.
La littérature sur l'oscillométrie est enrobée des termes ingénierie qui est en partie responsable, à mon avis, de sa lente adoption par les cliniciens. Cependant, si nous insistions pour comprendre les occasions derrière le rendu de la diffusion rayonnement de la sinogramme, dites les données brutes d'un tomodensitogramme, à l'image finale, nous ne serions pas en mesure de fournir des soins efficaces à nos patients.
OK.
Mais ce n'est pas le cas, pas en tout. Nous adaptons les images de CT scan même si nous ne comprenons pas les détails qui les rendent possibles. Il en va de même pour les cardiogrammes.
Parfait. Cela est une excellente analogie. Avec plus de données, une disponibilité accrue et une standardisation des appareils, cet outil pourrait être utilisé à une plus grande échelle. Docteur Dandurand, merci infiniment d'avoir partagé vos connaissances sur l'oscillométrie avec nous aujourd'hui.
Au plaisir.
Ceci conclut ce balado. Maintenant, nous allons terminer cet entretien sur l'oscillométrie. Docteur Dandurand, merci infiniment d'avoir été avec nous. Si vous avez trouvé cet épisode sur l'oscillométrie intéressant, vous pouvez avoir accès à un autre balado Long and Learn sur le sujet de la dyspnée en MPOC. Merci pour votre écoute. À la prochaine.